Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Situation sécuritaire, clôture vendredi dernier à Kinshasa de l'atelier sur un retour de la confiance citoyenne et de la sécurité étatique au sud Kivu. Organisée par la société civile de cette province, ces assises ont produit un plan d'action comportant quatre actes principaux, notamment la cessation des hostilités avec le retour des déplacés dans leur village d'origine et les mécanismes désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation des DRCS en sigle. L'objectif étant le rétablissement de la paix, de la sécurité et de l'autorité de l'État dans le sud Kivu en général et dans les hauts plateaux de Sizi, Uvira et Calais en particulier. Que pensez-vous des conclusions issues de cet atelier et les actions contenues dans ces plans pourraient-elles contribuer à ramener la paix dans cette partie du pays? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre dans cette émission. Et nous recevons Adrien Zawadi, président du bureau de la coordination de la société civile du Sud Kivu. Bonsoir Adrien Zawadi.
Bonsoir Guy Maté.
Joëlla Sambo, présidente du conseil provincial de la jeunesse Sud Kivu. Bonsoir Madame Joëlla Sambo.
Bonsoir, je tiens à saluer tous les auditeurs de Radio Okapi.
Et professeur Claude Iguma Wakenge, professeur associé des sciences sociales à l'ISDER Bukavu. Bonsoir professeur Claude Iguma Wakenge. Bonsoir professeur Claude Iguma Wakenge. On va tenter de les rappeler. Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Nous le disions au sommaire, situation sécuritaire, clôture vendredi dernier à Kinshasa de l'atelier sur un retour de la confiance citoyenne de la sécurité étatique au sud Kivu. Organisé par la société civile de cette province, ces assises ont produit un plan d'action pour le rétablissement de la paix, la sécurité et l'autorité de l'État dans le sud Kivu en général et dans les hauts plateaux de Fizi, Uvira et Calais en particulier. Le président du bureau de coordination de la société civile du sud Kivu évoque les principaux axes contenus dans ces plans et des facteurs pouvant faciliter la concrétisation de ces actions pour la restauration de la paix dans cette partie du pays. On écoute Adrien Zawadi au micro de Radio Okapi.
Après une analyse sans complaisance de la situation au sud Kivu, on est arrivé à faire des actions sur quatre axes fondamentaux. Le premier axe, c'est l'axe de la cessation des hostilités. Et pour que cet axe soit formel et réaliste, on a proposé une série d'activités parmi lesquelles, d'abord, il faut l'amélioration de la gouvernance au sein des forces de sécurité et de défense. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, c'est l'axe qui concerne les mécanismes DRC. Au niveau de ces mécanismes, on a suggéré que, parce que c'est un mécanisme de toutes les chances, il faut l'organiser et l'étendre à tous les niveaux. Troisième axe, c'est l'axe qui concerne l'urgence humanitaire, la saison culturelle et le retour des déplacés. Alors, quatrième axe, et c'est le dernier, c'est l'axe sensibilisation et restitution par les représentations mixtes dans multicommunautaires. On pense que globalement, si la société civile fait sa part et que l'État central fait sa part, on pense que dans les 6 mois, la paix va revenir.
En réaction, la patronne de la MONUSCO qui était invitée à cet atelier salue cette initiative de la société civile du Sud Kivu et les propositions issues de ses assises qu'elle juge concrètes. Madame Bintou Keïta répond au micro de la radio Okapi.
Écoutez, toutes les forces de bonne volonté pour amener la paix et la cohésion sociale est à saluer. Et j'ai écouté avec beaucoup d'attention les recommandations et au-delà des recommandations, les indicateurs qu'ils se sont imposés eux-mêmes avec l'ensemble des partenaires étatiques pour arriver à des résultats. Et j'ai vu que c'était très concret puisque entre maintenant et la fin de l'année, pour que les déplacés internes puissent retourner chez eux. Et ça va demander beaucoup d'efforts et je crois que j'ai entendu même l'utilisation du terme solennel. Un engagement solennel. Et j'ai aussi entendu de la part du président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale une écoute très attentive et un dévouement à pouvoir accompagner et à écouter la société civile du Sud Kivu.
Adrien Zawadi, vous êtes président du bureau de la coordination de la société civile du Sud Kivu. Vous avez organisé ces assises sur la paix au Sud Kivu. D'abord, pourquoi vous choisissez la ville de Kinshasa? Pourquoi ne pas les faire au Sud Kivu?
Merci beaucoup Guy. Pourquoi avoir choisi Kinshasa pour organiser ces assises-là? D'abord, il faut rappeler qu'il y a eu déjà plusieurs initiatives au niveau local, que ce soit dans les territoires, que ce soit en province, et même ici déjà à Kinshasa, il y a eu plusieurs initiatives. Mais au-delà de toutes ces initiatives, la grande décision d'action vient toujours de Kinshasa. Et il y avait une grande opportunité. La grande opportunité, c'est l'annonce par le chef de l'État de la création de ce mécanisme d'EDRC. Et il fallait rencontrer les ministères qui sont retenus dans l'ordonnance du chef de l'État, les rencontrer ici à Kinshasa pour que les erreurs du passé soient corrigées. Et nous, la société civile, donc, c'était à la fois un atelier stratégique de plaidoyer pour se mettre en contact avec les ministères et les services techniques de l'État qui doivent agir sur le terrain et avec eux, et leur dire quelles sont nos attentes, nous comme société civile, nous comme représentants du peuple. Donc, pour nous, comme c'est Kinshasa, la centrale des décisions, des grandes décisions qui s'exécutent sur le terrain et qui a l'obligation de sécuriser cette partie, nous avons jugé qu'il était stratégique de venir faire cet atelier ici à Kinshasa. Et voilà la raison fondamentale.
Dans l'intitulé, vous dites « Atelier sur un retour de la confiance citoyenne ». Pourquoi retour de la confiance citoyenne? La confiance entre les citoyens qui vivent sur cet espace n'est plus de mise.
Oui, pourquoi ça? Ça, c'est très important, Guy, parce que la confiance citoyenne, ça signifie que vis-à-vis des autorités de Kinshasa, vis-à-vis des initiatives qui viennent de Kinshasa et qui n'ont pas amené les résultats escomptés, il y a eu quand même une petite une baisse de confiance entre les citoyens à la base et tout ce qui vient de Kinshasa. Or, on sent que Kinshasa exprime un peu, en tout cas, l'intention de mettre fin. Mais qui veut y croire? Les gens n'y croient pas parce que, rappelez-vous Guy, que depuis que 25 ans que nous sommes dans cette situation des guerres à l'Est, et des guerres de gens sont tués, sont condamnés à quitter leur village parce que les villages sont brûlés, il y a eu plusieurs initiatives de Kinshasa, plusieurs en tout cas, vous rappelez toutes les opérations militaires, mais qui n'ont presque abouti à rien. Et donc, voir qu'il y a eu multitude des opérations militaires qui n'ont pas ramené la paix, vous pouvez imaginer que les citoyens ont perdu quand même confiance. Confiance dans les institutions, confiance dans les actions politiques ou militaires.
Oui, la cessation des hostilités est l'un des axes contenus dans les plans d'action que vous avez adoptés à l'issue de cet atelier. Et comment vous entrevoyez la concrétisation de cette action sur le terrain, cessation des hostilités?
Voilà. Alors, il faut vous rappeler que quand même, le Sud Kivu, il faut les traiter de manière particulière sur tous les groupes armés. Parce qu'il y a quand même un précédent positif, si je veux le dire ainsi, parce que les groupes armés du Sud Kivu se sont déjà réunis plus de deux fois d'ailleurs, à Muresa 1 et Muresa 2, avec des partenaires. Et là, dans ces ateliers, dans ces assises de Muresa, les groupes armés du Sud Kivu ont pris des engagements de se démobiliser volontairement, de se désarmer volontairement. Mais ils ont posé des préalables, et des préalables qui devraient être respectés par l'État congolais. Et aujourd'hui, il paraît que l'État congolais n'a pas respecté sa part d'engagement. Et donc, nous disons, si tel est le cas, il faut maintenant qu'on puisse revenir sur ces engagements-là, parce que les groupes armés du Sud Kivu maintiennent ces engagements, n'ont pas encore renoncé à ces engagements-là. Et donc, il faut rappeler à l'État de remplir sa part de responsabilité. Mais alors, la cessation des hostilités a quand même des préalables. Parmi les préalables, comme nous l'avons dit, il faut améliorer la gouvernance au sein des forces de sécurité et de défense. Parce que la gouvernance à ce niveau-là, ça cause problème et les hommes qui sont au front en subissent énormément et ça fait que cela diminue encore de plus en plus la confiance des citoyens envers les troupes FRDC qui doivent les sécuriser. Et ça, c'est un handicap grave à ramener la paix dans la région. Donc ça, c'est vraiment sine qua non, il faut le faire.
Vous vous fixez comme objectif d'obtenir le retour des déplacés dans leur village d'origine d'ici 3 mois. Adrien Zawadi, compte tenu de la situation sécuritaire qui prévaut pour le moment, n'est-ce pas, d'aller au plateau, ces délais de 3 mois est-il réaliste à votre avis?
Non, non, il faut le dire, c'est pas réaliste, c'est juste indicatif. On aurait souhaité même que c'est dans un seul jour que cette paix revienne, parce que peut-être que ici à Kinshasa, vous ne réalisez pas le ras-le-bol de la population dans les territoires. On en a assez. Une minute d'insécurité, c'est une minute de trop pour les gens du Sud Kivu. Bon, 3 mois, c'est juste indicatif, mais nous pensons que si la volonté est là, si l'engagement des services publics est là, c'est 3 mois, c'est même beaucoup pour que la paix revienne, parce qu'on sait là où on doit toucher pour que la paix revienne, mais on n'y touche pas.
On doit toucher où?
Ben alors, il y a eu plusieurs rapports pour dire ce qu'il faut régler, il faut ramener, il faut donner, par exemple, il faut nourrir les militaires au front, et puis on sait aussi comment il faut traiter les groupes armés qui ont déjà montré leur bonne foi de quitter la brousse, mais on ne les fait pas. Donc, on sait aussi combien la population et nous, la société civile, nous sommes engagés à travailler pour ramener la paix, mais donc, tout le cadre n'est pas vraiment disponibilisé pour que la paix revienne. Et donc, c'est pour cela que nous disons 3 mois, c'est autant peu vu la complexité de la situation, mais aussi autant beaucoup s'il y a un engagement ferme de ceux qui doivent agir.
Merci Joëlla Sambo, présidente du Conseil provincial de la jeunesse Sud Kivu. Vous avez participé à ces assises. Quel était l'apport de votre structure dans un tel atelier?
Je tiens d'abord à vous remercier de nous avoir invités à participer à ces dialogues intercongolais. En fait, c'est que vrai, comme le savons nous tous, la jeunesse est à la base de toutes choses. Et comme vous le savez bien aussi qui vous, il y a ces problèmes-là d'insécurité, comme vient de le dire le président Adrien Zawadi. Et comme je peux le dire et le confirmer encore une fois, cette insécurité est causée par la jeunesse d'une part, alors que de notre part, la jeunesse veut qu'il puisse avoir sécurité. C'est comme une contradiction. Pour vous dire qu'au niveau de ces groupes armés qui existent à l'est de la République démocratique du Congo, surtout dans la province du Sud Kivu, la quasi-majorité est constituée uniquement par des jeunes. Et ce sont ces jeunes-là qui sont en train de déstabiliser notre province, déstabiliser notre pays. Et cela, ce n'est pas parce qu'ils le veulent bien, non. C'est parce que d'une part, ils ne sont pas encadrés. Ils sont là, ils cherchent à se faire connaître. Ils cherchent à vouloir avoir de la force, à vouloir s'imposer pour qu'on puisse les donner de la valeur. Mais, comme vous le savez bien, il y en a certains, et d'ailleurs la majorité, qui aimeraient vraiment sortir du groupe armé. Mais malheureusement, lorsqu'il y avait la démobilisation dans le programme passé, la majorité de jeunes qui se sont engagés à se démobiliser, quand ils sont venus dans la communauté, les cadres n'étaient pas appropriés pour qu'ils puissent être réinsérés dans la communauté, et je vous assure que la majorité sont rentrés.
Et donc le préalable n'était pas rempli comme l'a relevé le président Adrien Zawadi.
Oui, la base n'était pas vraiment établie pour que ces gens-là puissent vivre dans la communauté. Il y avait beaucoup de promesses qui ont été faites à ces jeunes-là, malheureusement non tenues par notre gouvernement, par certaines organisations qui étaient en train d'être utilisées pour la mise en œuvre de certains projets. Il faut se dire la vérité. Mais aussi, le problème qui est là aussi, c'est que lorsqu'on faisait la démobilisation de ces jeunes-là, on venait retrouver qu'ils étaient réinsérés dans les communautés où il y a d'autres jeunes qui n'ont rien profité, qui ont aussi un besoin d'être accompagnés, qui ont aussi un besoin d'être réinsérés, qui ont le besoin primaire d'être toujours normal
au niveau de la communauté. Ils se considèrent comme étant victimes d'une certaine injustice.
C'est ça justement ce qui se retrouve. Ils se retrouvent partout dans la province de Sud Kivu. Ces jeunes-là se retrouvent victimes et ils sont aussi poussés à entrer dans le groupe armé pour qu'eux aussi, en retour, puissent être réinsérés. Et cela, ça pousse vraiment que l'insécurité puisse progresser du jour au lendemain au détriment même de ces jeunes-là.
Voilà, la sensibilisation est parmi les axes contenus dans les plans d'action qui a été adopté à l'issue de cet atelier qui a été organisé ici à Kinshasa. Et Madame Joëlla, dans votre travail quotidien, certainement que vous vous occupez, n'est-ce pas, de cet aspect des choses, hein, sensibilisation. Et qu'est-ce qui n'a pas marché jusque-là dans la sensibilisation pour que les miliciens refusent, en tout cas, de quitter les groupes armés? Qu'est-ce qui n'a pas marché?
Comme vous le savez bien, L'information est la meilleure des choses. Pour que tu puisses changer des mentalités, pour que tu puisses apporter ta contribution, il faut que tu puisses avoir accès à la bonne information. Voyez-vous que la majorité des jeunes n'ont pas accès à la bonne information, et voilà pourquoi ils sont entrés dans le groupe armé, parce qu'ils pensent qu'en entrant dans le groupe armé, ils vont avoir beaucoup de privilèges, ils vont évoluer, et là, malheureusement, c'est à leur détriment et à leur avenir. Certainement que au niveau de notre communauté, surtout au niveau du site Kivu, dans les hauts plateaux et bien sûr dans d'autres territoires de la province du site Kivu, le personne le mieux placé pour faire la sensibilisation de jeunes, parce que facilement un jeune peut se sensibiliser, bien sûr nous le jeune, facilement le jeune peut sensibiliser les autres et comprendre facilement comparativement avec les autres personnes qui ne sont pas de leur âge, et ils connaissent mieux, je vous assure, ils connaissent mieux leurs collègues, leurs frères qui sont partis dans les groupes armés.
Et donc, vous n'avez pas apporté l'information qu'il fallait?
Non, l'information est que ça n'a pas circulé normalement au niveau de la communauté. C'est ça le grand problème. L'information n'a pas circulé, que ce soit au niveau de la communauté qui reçoit le jeune qui vient des groupes armés, que ce soit au niveau de groupes armés. Je vous assure bien sûr que là où il y avait une bonne sensibilisation au niveau du groupe armé, certainement, il y a des gens, comme je l'ai dit, qui sont sortis, mais les conditions n'étaient pas appropriées pour qu'ils puissent rester dans leur communauté respective. Je vais aussi ajouter un autre point. Très souvent, il y a eu beaucoup de dialogues, comme mon président l'a dit, M. Adrien. Il y a eu beaucoup de dialogues pour essayer de voir comment est-ce qu'on va apporter la solution aux insécurités qui se trouvent à la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, le constat, c'est quoi? Et que dans tous ces dialogues-là, les jeunes n'ont pas participé. Voilà pourquoi une personne qui n'a pas participé à des dialogues ne peut pas contribuer. Au contraire, elle va chercher à anéantir le compromis qui a été pris en compte ou bien qui a été décidé dans les ateliers ou bien dans des conférences ou bien dans des dialogues qui ont été tenus au niveau soit de la base, soit au niveau national. Et voilà pourquoi on a besoin de faire participer cette jeunesse-là afin qu'eux aussi puissent contribuer vraiment, que ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau du développement, que ce soit au niveau de l'accession au pouvoir. Je vous assure que aujourd'hui, les problèmes qui est majeur au niveau de notre province, pas seulement au site, je pense que aussi au niveau national, c'est le non-encadrement de la jeunesse. Je viens parler de l'emploi. Quand je dis qu'il n'y a pas des espaces où on peut accueillir les jeunes, mais aussi, il n'y a pas des endroits où les jeunes peuvent se rencontrer, échanger.
Voilà. Alors, comment vous comptez vous impliquer dans l'autre axe, urgence humanitaire et les retours des déplacés, hein? Vous avez évoqué un aspect important ici, c'est l'accès à l'information, la circulation de l'information. Et donc, il faut sensibiliser les personnes qui quittent, n'est-ce pas, pas seulement les groupes armés, mais aussi les camps des déplacés, et aussi sensibiliser ceux-là qui doivent recevoir ces personnes qui quittent les groupes armés et les personnes qui se sont déplacées, qui ont quitté les villages il y a longtemps et qui doivent revenir dans ces villages-là. Donc, il faut cette sensibilisation à ces deux niveaux-là. Comment vous comptez vous impliquer pour que cet objectif soit atteint?
Guimaté, il y a autant d'organisations de jeunes aussi que vous, qui sont déterminées à aider à la sécurité et à l'avènement de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Ils sont vraiment déterminés. Mais très souvent, ces organisations n'ont pas accès au fond pour pouvoir mieux faire les activités. Et ça leur empêche vraiment de pouvoir contribuer tant soit peu. Et je vous assure, je peux vous certifier que beaucoup d'activités qui se font au niveau de la province du site Kivu, ça vient très souvent des organisations qui n'ont pas de fonds. Voilà pourquoi nous devons faire autant de plaidoyers auprès du gouvernement, auprès même des organisations humanitaires qui ont le fonds par rapport à ces genres de domaines, sécurité, paix, cohésion sociale, de pouvoir apporter les rappuis aux organisations des jeunes. Mais aussi, je vous assure qu'au niveau de la province de site Kivu, le conseil provincial de la jeunesse est représenté partout, au niveau provincial, territorial, au niveau local, et c'est une structure qu'on doit normalement utiliser pour converger tous les efforts de jeunes, des organisations de jeunes, afin que tout le problème lié soit à la sécurité, soit au développement, soit aux prises en charge, soit aux questions de chômage qui existent vraiment et qui font en sorte que la jeunesse... C'est ça justement. Mais aussi, il y a un autre problème sur la responsabilisation de la jeunesse. Voyez-vous, un jeune qui n'est pas responsabilisé il ne saura pas, je vous attire, contribuer au développement de notre pays.
Être responsabilisé, c'est-à-dire quoi?
C'est ce que je vais vous expliquer, M. Gumaté. Le problème qui est là, à tout le poste décisif, que ce soit au niveau des cadres de base jusqu'au sommet, il y a quasiment une moindre représentativité des jeunes. Voilà pourquoi le Conseil français de la jeunesse, comme vous avez posé la question, le Conseil français de la jeunesse est en train de faire le plus doué à tout le niveau pour que le jeune soit mis à tous les postes. Vous voyez, d'abord, si on mettait les jeunes, là on appelle chez nous les Nyumbakumi, ou bien les responsables des 10 maisons, je vous assure qu'il y aura des milliers de jeunes qui seront à la base. Et là où un jeune déterminé, un jeune qui a la vision, un jeune qui est sensibilisé, commence à travailler à attaquer Nyumbakumu. Attends, je vais vous dire ce que ça va amener. Un, ça va amener la sécurité parce que ces jeunes-là vont sécuriser ces 10 maisons. Deux, vous voyez-vous, partout il y a les problèmes de la salubrité. Je vous assure, un jeune qui est visionnaire pourra apporter des solutions pour la salubrité. Mais aussi, on parle toujours des expériences. On dit que les jeunes n'ont pas d'expérience. Une fois responsable des 10 maisons, il pourra acquérir autant d'expérience pour pouvoir contribuer soit au niveau du développement de son pays et de notre province en particulier.
Merci beaucoup, Madame Joëlla Sambo. Professeur Claude Iguma Wakenge, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là, oui.
Bonsoir, professeur.
Je suis bien là.
Bonsoir.
Bonsoir, voilà. Guy.
Oui,
bonsoir à tous les auditeurs, mais au capi, aux quatre co-débatteurs aussi.
Ok, je rappelle que vous êtes professeur associé des sciences sociales à l'ISDER Bukavu. Comment vous analysez cette initiative de la société civile du Sud Kivu?
D'emblée, pour moi, c'est une très bonne initiative qui s'inscrit en fait dans la logique de beaucoup d'autres initiatives qui ont été menées pour résoudre les conflits armés dans la région ici. Et je suis très d'accord avec Zawadi, le président de la société civile, qui a dit qu'il fallait mener les débats au niveau de Kinshasa pour essayer de rencontrer un peu tous les acteurs au niveau national, parce que finalement les décisions se prennent à Kinshasa, les décideurs prennent des décisions là-bas, et parfois ça a beaucoup d'influence au niveau provincial mais aussi au niveau local. Donc c'est vraiment à saluer.
Quelle est votre lecture par rapport à ces recommandations? Il y a celle qui parle de la cessation des hostilités et le retour des déplacés dans un bref délai.
Oui, je vois un peu là tout ce paquet de recommandations. Et moi, ma première lecture est que je crois qu'il faut distinguer les recommandations qui appellent en fait des actions d'urgence et des recommandations qui demande des actions et des réflexions sur le long terme. Et je pense que dans l'intervention de Adrien et même de Madame Joëlla, tous les deux insinuent cette complexité de la situation qui va au-delà des dynamiques au niveau local. Donc je crois qu'il faut distinguer les deux choses, voir qu'est-ce qui peut être fait dans l'urgence, tout ce qui est retour des déplacés, aide humanitaire, etc. Et puis, qu'est-ce qui peut être fait dans le long terme? Et en plus de ça, voir comment on les met en pratique sur le plan opérationnel. Parce que c'est ça toujours le grand problème. On peut avoir autant de recommandations, mais comment on les opérationnalise? Je vois déjà que le BDRC ici est présenté comme le mécanisme de toutes les chances. Ce qui est vrai, mais comment on opérationnalise? Quel est le contenu qu'on lui donne? On a déjà un programme au niveau national depuis le 5 juillet, mais quel est le contenu conceptuel de ce DDRC? Qu'est-ce qu'on fait du communautaire? Comment on le met en pratique sur le terrain? Donc il y a toute une série de réflexions qui doivent être menées à ce niveau-là. Et la sensibilisation, je suis très d'accord avec madame que il y a eu beaucoup de dialogues et que les jeunes ont souvent manqué dans ces discussions qui concernent souvent des acteurs haut placés, les ligues politiques ou des acteurs de groupes armés. Et même d'ailleurs, il y a parfois des discussions qui n'invitent pas les acteurs les plus concernés par les conflits.
C'est depuis toujours que l'on évoque ces concepts de sensibilisation, mais les résultats sont minimes. Et à votre avis, quels sont les paramètres qui doivent être prises en compte pour que cette fois-ci, la sensibilisation puisse aboutir au dégonflement des groupes armés?
Oui, mais pour moi, c'est encore une fois, il faut d'abord qu'on ait une réflexion approfondie sur le sens de ce qu'on appelle communautaire. qui sont les acteurs qui doivent être mobilisés autour de ce processus communautaire de démobilisation. Moi, je viens de faire un tour dans plusieurs territoires et je me rends compte qu'il y a effectivement beaucoup de jeunes qui ont été démobilisés, qui sont dans les villages et qui ne font rien dans ces villages. Donc, encore une fois, dans ce circuit de retour circulaire, comme l'ont écrit certains amis, pour remobiliser encore ces jeunes dans les milices. Donc, l'occupation de ces jeunes est extrêmement fondamentale et je pense que toutes les discussions sur le communautaire, le DDRC, je suis vraiment content que le président comprenne les bien fondés de ce programme. Je crois que c'est à ce moment-là, quand on aura donné le contenu à ce communautaire-là, qu'on pourra effectivement tenir compte de tout ce qui est besoin des jeunes, tout ce qui est attente, etc., y compris les jeunes démobilisés qui errent maintenant dans de nombreux villages.
Mais il y a eu des réflexions pourtant qui ont été développées à ce sujet. Pourquoi, à votre avis, on ne s'est pas servi de ces réflexions pour que l'on puisse concrétiser, n'est-ce pas, les desiderata de la population sur le terrain?
C'est vrai qu'il y a eu des réflexions, mais c'est des réflexions qui n'ont pas encore abouti à une compréhension commune de ce DDRC. Bien sûr, il faut tenir compte des spécificités de chaque zone, etc. Mais je pense encore une fois que tous les intervenants qui seront mobilisés autour de ce concept DDRC devraient avoir une compréhension commune en termes de qu'est-ce qu'on veut faire exactement avec les démobilisés pour qu'on ne rentre pas dans les erreurs du passé où finalement chaque intervention a sa propre logique. Parce que moi, l'une des critiques, justement, du fait que les choses ne marchent pas, c'est premièrement une lecture simpliste des conflits, ça c'est une première dimension, et deuxièmement, le fait que les interventions sur le terrain, y compris dans le domaine de l'éducation, ne sont pas interconnectées. Et moi, je crains que le DDRC ne les fasse tomber dans la même erreur.
Il y a un aspect important qui apparemment n'a pas été pris en compte dans cet atelier. C'est la connexion des groupes armés avec l'extérieur. Est-il possible d'envisager le retour de la paix au sud Kivu sans tenir compte de cet aspect important, professeur Claude?
Je dirais non. Cet aspect extrêmement important. La nature des conflits au niveau local, quand on l'analyse dans toute sa complexité, doit tenir compte justement de cette nature multidimensionnelle des conflits et comprendre les logiques qui animent les entrepreneurs politico-militaires, si vous le voulez, à tous les niveaux, depuis le niveau local, provincial, national et sous-régional. Et c'est pour ça que moi je pense qu'on doit améliorer les relations bilatérales entre les États, essayer de mettre un peu la pression sur les voisins qui alimentent aussi de près ou de loin la violence dans l'est du Congo. Ça c'est documenté par tous les experts. Donc il y a vraiment des actions qui doivent être prises en compte et je vois effectivement dans le paquet, dans le cocktail de recommandations, cette dimension sous-régionale ne ressort pas beaucoup. Et il faut beaucoup y travailler.
Merci. Merci. Nous allons maintenant passer au point de vue des auditeurs. Hein. Les auditeurs sont en train d'appeler pour contribuer à ces débats. Adrien Zawadi, vous allez répondre à cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Bukavu, au sud de Kivu.
Robert Mohamed de Bukavu au Sud Kivu. Cette initiative de la société civile du Sud Kivu est à saluer. Cependant, il en faudra combien des actions de la société civile pour que la paix, la sécurité et l'autorité de l'État soient réellement rétablies au Sud Kivu. Je pense que tant que la volonté politique réelle d'arriver à la stabilité de la province du Sud Kivu ne sera jamais manifestée de manière claire, les actions de la société civile de rétablir la paix et la sécurité au Sud Kivu, quoique louables, ne feront toujours qu'un coup de pied dans l'eau.
Adrien Zawadi.
Oui, je suis partiellement d'accord avec
Robert Baume.
Mais il faut dire que même si ce qui a été fait, on ne peut pas dire que tout ce qui a été fait a raté. Parce que rappelez-vous que nous sommes en Ituri, nous sommes en Nord Kivu, au Sud Kivu, mais Ituri et Nord Kivu ont été pris dans l'état de siège. Qu'est-ce qui a fait que le Sud Kivu puisse échapper à l'état de siège? On aurait pu aussi être dans l'état de siège, et d'ailleurs c'était une question des débats. Mais parce que déjà les groupes armés du Sud Kivu avaient exprimé cette volonté de désarmer volontairement, de démobiliser volontairement, on ne pouvait plus traiter le Sud Kivu comme les autres provinces, ce qui était différent dans les autres provinces. Donc on ne peut pas dire que les initiatives qui ont été prises n'ont rien fait, mais cependant, là où je suis d'accord avec lui, c'est de dire il manque quelque chose. Bon, encore une fois, cette expression, la volonté politique, on cherche à savoir quel est le contenu de cette expression-là. Moi, je parlerai beaucoup plus de l'engagement. Et il faut dire, comme le professeur a dit, qu'il y a un problème de compréhension commune. Mais je voudrais dire aussi qu'il y a une différence motivationnelle. Parce que dans les initiatives, il y en a qui voient beaucoup plus l'argent, et c'est pour cela qu'ils se battent. Même pour les DDRC ici maintenant, les gens sont tentés de se bousculer parce qu'ils ont entendu seulement un chiffre faramineux. Mais il y a d'autres, et ce sont les communautés et nous, la société civile, qui voulons la paix. Alors nous devons maintenant agir, à dire...
Malheureusement, dans les processus, vous n'êtes pas souvent impliqués.
C'est ça. Et justement, toutes les initiatives qui ont été prises, la société civile comme institution n'a pas été. C'est vrai, il y a des organisations membres, mais en tant que telles, non. Et c'est maintenant... Et pour nous, c'est pour cela que nous disons, ces mécanismes DDRC qui inclut, qui implique, qui fait appel à la participation active et à part entière des communautés, ça nous intéresse parce que c'est la dernière chance. Parce que imaginez, Guimaté, que ce mécanisme venait à échouer. Quel sera encore l'autre mécanisme qu'on va mettre sur place? Donc pour nous, la société civile, on s'accroche à ces mécanismes-là. Et déjà, lorsque on nomme des gens qui sont contestés par les parties prenantes, par exemple, les groupes armés contestent l'homme qu'on nomme comme coordonnateur, les communautés les contestent, les partenaires, c'est la même chose. Est-ce que vous pensez que le processus va échouer? Donc, il y a cette différence motivationnelle qui constitue un problème. Et Robert, nous devons dire, ce n'est pas parce qu'il n'y a rien jusqu'aujourd'hui que nous, la société civile, nous devons arrêter de pousser. Nous devons toujours pousser pour qu'il y ait un engagement franc et clair des autorités.
Merci Joëlla Sambo. Vous allez aussi réagir à cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Kisangani dans la province de la Tchopo.
Rémi Lokonga depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. L'initiative de la société civile du Sud Kivu est, à mon humble avis, salutaire car elle vise le rétablissement de la paix, la sécurité et l'autorité de l'État dans cette partie du pays, surtout lorsqu'elle fait appel à la conscience nationale comme gage de la sécurité étatique. La restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, particulièrement dans les provinces de l'Est du pays, doit tout d'abord passer par la prise de conscience nationale, sans laquelle les efforts du gouvernement ne pourront jamais aboutir à un résultat satisfaisant. Il serait indispensable que la population de cette province et de toute la République puisse s'unir et se lever comme un seul homme, à considérer le Congo comme notre seule patrie pour la défendre en soutenant les forces armées dans ce processus de la pacification du pays. À la suite de cet atelier, il importe maintenant que la société civile passe par la sensibilisation de la population pour soutenir cette initiative en collaborant avec les forces loyalistes et au gouvernement de soutenir efficacement cette initiative.
Joëlla Sambo, votre réaction?
Je pense qu'il a dit ce qu'il fallait dire, parce qu'il a parlé de l'unité, il a parlé de la conscientisation de notre gouvernement pour qu'il puisse essayer de prendre en compte le point et les recommandations des assises qui ont été ici à Kinshasa. Et donc, il faudra vraiment que toutes les parties prenantes puissent essayer de jouer chacun son rôle tel qu'il le fallait pour qu'ils puissent voir comment est-ce que le DDRCS pourra vraiment répondre aux desiderata de la communauté, parce que c'est tout le monde, comme l'a dit le président Adrien, c'est tout le monde qui attend ce programme à bras ouverts, et on est sûr que c'est la solution au problème de la communauté, de la population de l'Est de la République démocratique du Congo, qui a autant souffert par rapport à l'insécurité, au manque de la cohésion sociale, à la non-considération des desiderata de certaines personnes, et surtout de la volonté de la société civile, parce qu'il y a autant d'initiatives de la société civile qui ont été proposées au gouvernement, bien sûr. Il y en a d'autres qui sont en cours de réalisation par les organisations de la société civile, mais sans l'accompagnement du gouvernement, sans la considération de ces avis-là, de ces recommandations par le gouvernement, tant provincial que national, je vous assure qu'il n'y aura pas de solution.
Merci, professeur Claude Iguma-Wakenge. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Goma, au nord Kivu.
Moïse Angui, depuis Goma, au nord Kivu. Il est vrai que la question sécuritaire est et doit être l'apanage de tous les peuples congolais. Nous saluons cette initiative de la société civile. Sénéti joue très bien son rôle. Il reste de tout. Le gouvernement congolais qui a cette prérogative, voire même le dernier mot. Bref, je propose à ce que le gouvernement congolais collabore et prenne en considération les désidérata de la société civile, que la collaboration civilo-militaire soit renforcée.
Professeur Claude Iguma.
Oui, moi je suis très d'accord avec l'auditeur de Goma. Que la sécurité fait l'affaire de tous, et je pense que c'est ce qu'essaie de faire la société civile à travers ce genre d'initiative. Mais je reviens beaucoup sur cet aspect de prérogative, de responsabilité de l'État, parce que finalement, dans ce débat, je crois que le mot promesse est sorti quand même de nos bouches plusieurs fois, les promesses non tenues par le gouvernement, etc. Et je crois que ça, c'est une dimension extrêmement importante pour résoudre les conflits qui impliquent les groupes armés ici. Donc si le gouvernement prend des promesses, il doit les honorer. Et ça va donner un peu plus d'énergie aux autres pour se désolidariser de ces mouvements et de toutes ces rébellions.
Adrien Zawadi, les actions contenues dans ces plans, les plans que vous avez adoptés à l'issue de cet atelier, ces actions pourraient-elles contribuer à ramener la paix au sud Kivu?
Oui, Guy, nous y croyons fermement.
Nous y croyons parce que, rassurez-vous que les organisations de la société civile sud Kivu ont donné le meilleur d'elles-mêmes pour qu'il y ait quand même la paix. Et nous croyons encore, tant qu'on n'a pas encore la paix, effectivement, tant que les camps de déplacés ne sont pas dégonflés au sud Kivu, que les gens soient revenus dans leur village, nous, la société civile du sud Kivu, nous allons continuer à travailler et à proposer. Parce que on s'oppose pas à l'État, mais il faut que l'État sache que il a l'obligation régalienne de ramener la paix, de sécuriser sa population au sud Kivu. Donc, nous croyons à ces activités. Cependant, nous demandons que ces activités soient accompagnées par tout le monde, que tout le monde s'approprie, et que ce soit au niveau des autorités locales, qu'au niveau national et même des partenaires. Parce que nous tous, finalement, si nous faisons des choses isolement, on n'y arrivera pas.
Joël Assambo, les différents axes contenus dans ces plans d'action pourrait-il ramener la paix, permettre à ce que la paix puisse revenir dans cette partie du pays?
On est sûr que si le gouvernement essayait de prendre en compte et jouer bien son rôle, tel que défini dans le plan d'action, on est certain qu'il y aura la paix. Surtout que quand on a parlé, par exemple, de la collaboration civilo-militaire entre le jeune et le force de sécurité, ça pourra vraiment essayer de pouvoir apporter encore la confiance mutuelle entre ces deux, entre le militaire, le jeune et la communauté. Et je suis certaine que ces personnes là, que ce soit le jeune, que ce soit d'autres membres de la communauté, pourront aider à ce que les services de sécurité puissent mieux jouer leur rôle et pouvoir vraiment apporter la paix dans l'est de la République démocratique du Congo.
Professeur Claude Iguma, à votre avis, quand vous voyez les axes contenus dans ces plans d'action, est-ce que vous pensez que ça peut susciter de l'espoir?
Oui, encore une fois, ça doit susciter de l'espoir, ça suscite de l'espoir. Mais essayons de mettre un peu plus de rigueur dans la manière de voir qu'est-ce qui peut être fait dans l'urgence, qu'est-ce qui peut être fait sur le moyen et le long terme. C'est à ce niveau-là que moi je situe ma réflexion, et en même temps, comme on parle beaucoup du DDRC, comme étant vraiment une opportunité à saisir, il y a des réflexions qui doivent être faites à ce niveau-là, et je vois la société civile joue un très grand rôle parce qu'elle est déjà impliquée dans cette compréhension des logiques des acteurs, et j'imagine qu'elle peut jouer un très grand rôle par rapport à cette question, et à ce moment-là on peut s'attendre à des changements. Et en même temps, comme je disais tantôt, l'État doit vraiment être là, tenir ses promesses, tenir ses engagements et les respecter, surtout vis-à-vis de ces acteurs armés qui restent quand même assez assez organisé pour continuer à le perturber.
Adrien Zawadi, président du bureau de la coordination de la société civile du Sud Kivu, un message de sensibilisation, un message d'espoir à l'endroit de toute la population du Sud Kivu en général et de cette population qui vit dans les hauts plateaux, n'est-ce pas? Un message d'espoir.
Oui, un message, c'est pour dire à nos compatriotes qui sont dans le Sud Kivu de continuer à croire en la paix et de travailler pour la paix, parce que la paix ne se décrète pas, la paix se construit. Et particulièrement, je voudrais que les gens, la population, arrête de se faire manipuler. Il y a des gens, des tireurs de ficelles qui vivent dans les salons huppés ici, qui sont politiciens parce qu'ils manipulent les conflits là chez nous. Je voudrais demander à nos populations de dénoncer ces gens-là, parce que ça trop dirait, ça fait 25 ans qu'on est dans cette situation d'insécurité. Il y a toute une génération qui n'a connu que la guerre chez nous, et il ne faut pas que ça continue. Et pour que ça cesse, il faut qu'on se désolidarise de toutes ces forces armées, toutes ces forces obscures, internes et externes. Alors là, le deuxième message, c'est que il y a quand même des citoyens qui ont un bagage chargé du passé, mais qui peuvent se réconcilier. Il faut qu'on puisse, que les tireurs de ficelles puissent se réconcilier avec le peuple. Que les politiciens, que ce soit du Sud Kivu, que ce soit du niveau national, puissent se réconcilier avec le peuple, parce qu'ils ont quand même causé beaucoup de tort à ces peuples-là.
Vous avez été avec beaucoup d'autorités qui vous ont reçu ici à Kinshasa. Est-ce que vous pensez, vous espérez que cette fois-ci, les autorités politiques vont s'impliquer pour que votre plan d'action puisse se concrétiser sur le terrain?
Oui,
en guise de conclusion.
Je leur donne les bénéfices du doute, mais vous savez que les promesses qu'on a données aux Congolais, en général, au Sud Kivusien en particulier, sont nombreuses. Bon, maintenant, il faut savoir si c'est le meilleur moment qu'ils ont changé. Il y a un temps pour tout, et je crois qu'il y a un moment où ils vont décider, les autorités que nous avons rencontrées. Mais on a senti qu'en elles, quand même, qu'ils ont aussi envie que ça cesse, parce que l'Est a beaucoup brassé des millions inutilement. Il est temps que ces millions-là puissent servir au développement.
Joël Assambo, votre mot de la fin.
Je peux d'abord demander, je m'adresse d'abord spécifiquement à ma jeunesse du Sud Kivu.
Je vous en prie.
Et là, je peux juste leur demander de garder l'espoir. Parce que c'est l'espoir qui permet vraiment de vivre. Et parce que nous avons travaillé ici à Kinshasa sur le plan d'action. Et nous sommes sûrs qu'avec le gouvernement, bien sûr, s'il prend ça en considération, ça pourra nous permettre d'avancer et de bien encadrer la jeunesse du Sud Kivu pour que, et même contribuer aussi au développement et à la sécurité, à la cohésion sociale, à l'aide de la République démocratique du Congo. Surtout, je leur demanderai de garder l'unité, de travailler dans l'unité, parce que quand il y a autant de divisions, ce sont ces divisions-là qui apportent vraiment de l'insécurité, parce que chacun pourra être manipulé de son côté, et ce qui pousse certains, bien sûr, à entrer dans le groupe armé parce qu'ils vont trouver de l'intérêt, par exemple, auprès de certaines personnes. Et aux autres personnes, aux autorités au niveau provincial que national, je pourrais en train de le demander, de voir comment est-ce qu'ils peuvent s'appuyer, je vous assure, à la jeunesse. La jeunesse constitue plus de 80% de la population du Congo. Et donc, si on mettait toute l'énergie à cette jeunesse, il y aurait vraiment beaucoup de changements, que ce soit sur le plan sécuritaire, que sur le plan de développement.
Merci, professeur Claude Iguma Wakenge. Votre conclusion?
Ma conclusion va dans deux petits aspects. Premièrement, c'est s'il faut chercher l'espoir. Je crois qu'il faut individualiser les discours sur les violences plutôt que de les collectiviser. Je crois que ça, c'est un des éléments extrêmement importants. Et deuxièmement, l'État, la société civile, tous les acteurs qui travaillent sur la consolidation de la paix doivent travailler beaucoup, beaucoup, s'investir sur la dimension régionale des conflits locaux.
Merci à vous, Adrien Zawadi, Joëlla Sambo et professeur Claude Gouma Wakenge, d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à Dieudonné Nyangasa qui était la technique, aussi à Kelly Nkoute et Dona Madimba qui ont réalisé, n'est-ce pas, cette émission sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe, à la présentation d'Imate. Merci et bon suite de programme sur Radio Capi.